Chapitre 38. Scrutateur.
Nés des ténèbres, ils en portent toujours la marque, imprimée sur leur corps de la même manière que le feu marque leur âme. Je considère Gachash, fils Navamis, comme une source fiable, malgré mes doutes concernant cette traduction. Trouver la citation d'origine dans le 14e livre de Seld et la retraduire moi-même, peut-être.
Kaladin flottait. Fièvre persistante, accompagnée de sueurs froides et d'hallucinations. La cause en est probablement une plaie infectée, nettoyée à l'aide d'antiseptiques pour tenir les sprènes de pourriture à distance. Garder le sujet hydraté. Il était de retour à Pierre-d'Âtre avec sa famille, sauf qu'il était adulte, le soldat qu'il était devenu. Et sa place n'était plus auprès d'eux. Son père demandait constamment « Comment est-ce que ça a pu se produire ?»« Tu disais que tu voulais devenir chirurgien. » »« Chirurgien. » Côte brisée, résultant d'un trauma au flanc infligé par des coups. Bander la poitrine et empêcher le sujet de prendre part à des activités épuisantes. De temps à autre, il ouvrait les yeux et voyait une pièce obscure. Elle était froide, avec des murs de pierre et un toit haut. D'autres personnes étaient alignées en rang, sous des couvertures. Des cadavres. Il s'agissait d'un entrepôt où on les avait alignés pour les vendre. Qui achetait des cadavres? Le haut prince Sadeas. Il achetait des cadavres. Il marchait encore après l'achat, mais ils étaient des cadavres malgré tout. Les plus stupides refusaient de l'admettre et faisaient semblant d'être toujours en vie. Lacération sur le visage, les bras et la poitrine. Couche externe de peau arrachée à plusieurs endroits. Résultat d'une exposition prolongée au vent de la tempête majeure. Pansez les zones blessées. Appliquer un baume de Dénocax pour encourager la repousse de la peau. Le temps passait. Beaucoup de temps. Il aurait dû être mort. Pourquoi ne l'était-il pas? Il avait envie de s'allonger et d'attendre que ça se produise. Mais non. Non. Il avait abandonné Étienne. Il avait abandonné Gauchel et ses parents, ainsi que Dalet, ce cher Dalet. Il n'abandonnerait pas le pont 4. Pas question. Hypothermie provoquée par un froid extrême, réchauffer le sujet et l'obliger à rester assis. Ne pas le laisser dormir. S'il survit quelques heures, il n'y aura probablement pas de séquelles durables. S'il survit quelques heures. Les hommes de pont n'étaient pas censés survivre. Pourquoi Lamari l'avait-il dit une chose pareille? Quel genre d'armée emploierait des hommes censés mourir? Il avait envisagé les choses d'un point de vue trop étroit, trop restrictif. Il fallait qu'il comprenne les objectifs de l'armée. Il observait le déroulement du combat, horrifié. Qu'avait-il fait? Il fallait qu'il retourne tout changer. Mais non. Il était blessé, n'est-ce pas? Il saignait par terre. Il était l'un des lanciers morts. Il était un homme du pont 2, trahi par ces crétins du pont 4 qui avaient détourné l'attention des archers. Comment ose-t-il? Comment ose-t-il? Comment ose-t-il survivre en me tuant? Tendons froissés, muscles arrachés, os meurtris et fêlés, douleurs persistantes provoquées par des conditions extrêmes, forcés à se reposer au lit par tous les moyens nécessaires. Chercher la présence d'échymoses tenaces ou de pâleurs causées par une hémorragie interne. Elle peut s'avérer mortelle. Tiens-toi prêt à opérer. Il aperçut les sprènes de mort. Ils étaient noirs et de la taille d'un poing, avec des pattes nombreuses et des yeux d'un rouge profond et brillant, qui laissaient des traces de lumière brûlante. Ils s'agglutinaient autour de lui, filant dans toutes les directions. Leurs voix étaient des murmures, des bruits évoquant le papier qu'on déchire. Il le terrifiait, mais il ne pouvait pas leur échapper. Il parvenait à peine à bouger. Seuls les mourants voyaient les sprènes de mort. et seule une poignée d'extrêmement chanceux survivait ensuite. Les Sprendemore savaient quand la fin approchait. Doigts et orteils couverts de cloques provoquées par les engelures, assure-toi d'appliquer de l'antiseptique sur les cloques qui perceraient. Encourage la guérison naturelle du corps. Il est peu probable qu'il y ait des dommages permanents. Devant les Sprendemore se tenait une minuscule silhouette lumineuse, pas translucide, comme elle lui était toujours apparue, mais faite d'une lumière blanche et pure. Ce visage doux et féminin possédait à présent un éclat plus noble, plus anguleux, comme un guerrier d'une époque oubliée. Plus rien d'enfantin désormais. Elle montait la garde sur sa poitrine, tenant une épée faite de lumière. Cet éclat était si pur, si doux. Il semblait être celui de la vie même. Chaque fois que l'un des Sprendemore s'approchait trop, elle le chargeait, maniant sa lame éclatante. La lumière les tenait à l'écart. Mais les Sprendemore étaient nombreux. Il l'était de plus en plus, chaque fois qu'il était assez lucide pour regarder. Graves hallucinations provoquées par le trauma crânien. Prolonger l'observation du sujet. Ne pas autoriser la prise d'alcool. Obligé au repos. Administrer de l'écorce de brastron pour réduire l'enflure crânienne. On peut utiliser la mousse ardente dans les cas extrêmes, mais prends garde de ne pas laisser le sujet y développer une accoutumance. Si le traitement échoue, la trépanation sera peut-être nécessaire pour soulager la pression. C'est généralement fatal. Teft entra dans la baraque à midi. Plonger dans cet intérieur sombre était comme entrer dans une grotte. Il regarda sur la gauche, où les autres blessés dormaient généralement. Tous se trouvaient dehors pour le moment, à prendre un peu de soleil. Tous les cinq se portaient bien, même Leighton. Teft longea les rangées de couvertures roulées sur les côtés de la pièce et se dirigea vers le fond où reposait Kaladin. « Le pauvre, » songea Teft. « Qu'est-ce qui est pire ? Être malade et quasiment mourant ou devoir rester tout au fond, loin de la lumière ?» C'était nécessaire. Le pont 4 avançait en équilibre instable. On les avait autorisés à détacher Kaladin et jusqu'à présent, personne ne leur avait interdit de le soigner. L'armée tout entière ou presque avait entendu Sadeas le remettre au jugement du père des tempêtes. Gaz était venu voir Kaladin, puis avait ricané pour lui-même, amusé. Il avait sans doute dit à ses supérieurs que Kaladin allait mourir. Les hommes ne survivaient pas longtemps avec de telles blessures. Mais Kaladin s'accrochait. Les soldats se donnaient beaucoup de mal pour essayer de l'apercevoir. Sa survie était incroyable. Les gens parlaient dans le camp. Livré au jugement du père des tempêtes, puis épargné. Un miracle. Ça ne plairait pas à Sadeas. Combien de temps s'écoulerait-il avant que l'un des pâles iris ne décide de libérer leur clarissime de ce problème ? Sadeas ne pouvait pas agir ouvertement, pas sans perdre une grande partie de sa crédibilité. Mais un empoisonnement ou un étouffement discret pourrait abréger cette situation embarrassante. Le pont 4 gardait donc Kaladin le plus loin possible des regards extérieurs. Et on laissait toujours quelqu'un avec lui. Toujours. La foudre soit de cet homme, se dit Teft en s'agenouillant près du patient fiévreux dans ses couvertures en désordre, les yeux fermés, le visage en sueur, le corps enveloppé d'une effrayante quantité de pansements. La plupart étaient tachés de rouge. Il n'avait pas assez d'argent pour les changer souvent. C'était Scar qui montait la garde actuellement. Le petit homme aux traits robustes était assis au pied de Kaladin. « Comment va-t-il ? » demanda Teft. Scar répondit tout bas. « Son état semble empirer, Teft. Je l'ai entendu marmonner au sujet de formes sombres, se débattre et leur ordonner de reculer. Il a ouvert les yeux. Il n'a pas semblé me voir, mais il a vu quelque chose. Je serais prêt à le jurer. » L'esprène de mort. Songea Teft avec un frisson. Kellec nous protège. Je vais prendre mon tour, dit Teft en s'asseyant. Va chercher quelque chose à manger. Scar se leva, très pâle. Voir Kaladin survivre à la tempête majeure puis mourir de ses blessures porterait un coup terrible au moral des autres. Scar quitta la pièce d'un pas traînant, épaules rentrées. Teft regarda Kaladin un long moment, cherchant à ordonner ses pensées, ses émotions. « Pourquoi maintenant » murmura-t-il. « Pourquoi ici, alors que tant d'autres ont guetté et attendu, c'est ici que vous apparaissez ?» Mais Teft, bien entendu, allait un peu vite en besogne. Il n'avait aucune certitude, rien que des suppositions et des espoirs. Non, pas des espoirs, des peurs. Il avait rejeté les scrutateurs, et pourtant, il était là. Il plongea la main dans sa poche et en tira trois petites sphères de diamants. Il y avait très longtemps qu'il n'avait rien économisé sur son salaire, mais il s'était accroché à celle-ci, songeur et inquiet. Elle luisait de fulgiflammes dans sa main. Voulait-il réellement savoir ? Serrant les dents, Teft se rapprocha de Kaladin, baissant les yeux vers le visage de l'homme inconscient. « Espèce de salopard, » murmura-t-il, « salopard des foudres. Vous avez pris un groupe de pendus et les avez soulevés juste assez pour qu'ils puissent respirer. Et maintenant, vous allez les abandonner ? Je refuse, vous m'entendez ? Je refuse. » Il plaça les sphères dans la main de Kaladin, refermant dessus ses doigts flasques, puis posa cette main sur l'abdomen de Kaladin. Ensuite, Teft s'assit sur ses talons. Qu'allait-il se produire ? Les scrutateurs n'avaient rien d'autre que des histoires et des légendes, des contes à dormir debout, comme Teft les avait appelés, des rêveries. Il attendit. Bien entendu, rien ne se produisit. « T'es aussi crétin que n'importe qui d'autre, Teft, » se dit-il. Il tendit la main pour prendre celle de Kaladin. Ses sphères permettraient d'acheter quelques verres. Soudain, un hoquet agita Kaladin qui prit une inspiration brève, rapide et puissante. L'éclat disparut dans sa main. Teft s'immobilisa, yeux écarquillés. Des volutes de fulgiflammes s'élevèrent du corps de Kaladin. Ils étaient faibles, mais il n'y avait aucun doute possible quant à la nature de cette fulgiflamme blanche et luisante qui s'échappait de lui. C'était comme si Kaladin avait été baigné dans une chaleur soudaine et que sa peau même fumait. Kaladin ouvrit brusquement les yeux, qui laissèrent eux aussi échapper de la lumière. Il eut un nouveau hoquet bruyant, et les volutes lumineuses se mirent à s'enrouler autour des entailles exposées sur sa poitrine. Plusieurs se rapprochèrent et fusionnèrent. Puis, tout disparut. La flamme de ses minuscules brisures s'étant épuisée. Kaladin ferma les yeux et se détendit. Ses blessures étaient toujours graves, sa fièvre toujours élevée, mais sa peau avait retrouvé un peu de couleur. La rougeur gonflée qui entourait plusieurs des plaies s'était estompée. « Mon Dieu !» dit Teft, conscient qu'il tremblait. « Tout-puissant, rejeté du paradis pour demeurer dans nos cœurs !» « C'est donc vrai ?» Il baissa la tête vers le sol de pierre, fermant très fort les yeux au coin desquels perlaient des larmes. « Pourquoi maintenant ?» se demanda-t-il de nouveau. « Pourquoi ici ? Et au nom du ciel, pourquoi moi ?» Il s'agenouilla le temps de 100 battements de cœur pour compter, réfléchir, s'inquiéter. Enfin, il se releva et reprit les sphères à présent éteintes dans la main de Kaladin. Il allait devoir les échanger contre des sphères contenant de la flamme. Ensuite, il pourrait revenir et laisser Kaladin les vider également. Il faudrait qu'il soit prudent. Quelques sphères chaque jour, mais pas trop. Si le garçon guérissait trop vite, il attirerait trop l'attention. « Et il faut que j'en parle au scrutateur, » se dit-il. « Il faut que je... » Les scrutateurs avaient disparu. Ils étaient morts, à cause de ce qu'il avait fait. S'il y en avait d'autres, il ignorait totalement comment les localiser. À qui en parlerait-il ? Qui le croirait ? Kaladin lui-même ne comprenait sans doute pas ce qu'il faisait. Mieux valait ne rien en dire, du moins jusqu'à ce qu'il décide ce qu'il allait faire.